à Rencontre spirituelle, aujourd'hui sera question de celui que le pape Jean XXIII, considérait comme le plus grand théologien du XXe siècle, un théologien protestant surprenant calviniste, Karl Barth. Qui n'a pas entendu ce nom au moins une fois, Karl Barth, n'est-ce pas? Il est mort en 1968 et qui a eu une influence énorme dans le bon sens, sur le christianisme. Dans beaucoup d'ouvrages, il est question de Karl Barth. Congar en a beaucoup parlé. Et Hans-Urs von Balthasar a même écrit un livre considérable sur Karl Barth. Balthasar, comme vous savez, serait peut-être le plus grand théologien du XXe siècle dans l'Église catholique. Il avait d'ailleurs été nommé cardinal, et à l'avant-veille d'aller chercher sa barrette rouge, il est décédé malheureusement. Or, dans le renouveau d'une réflexion proprement théologique, qui s'intéresse à Dieu, à ce que Dieu nous a révélé, à l'intérieur du protestantisme, tel que s'y comprend l'intérieur du protestantisme, c'est le rôle central qu'a tenu ce calviniste suisse de Bâle, comme Balthasar, Karl Barth, qui est né en 1886 et qui est mort à 82 ans en 1968. Il a enseigné d'abord en Allemagne, avant d'en être chassé en 1935 avec la montée du nazisme et de Hitler, car il s'opposait de façon militante au nazisme. Puis il a dû se replier sur sa ville natale de Bâle, en Suisse. Sans dommage pour son rayonnement, au contraire. Et je vous lirai tout à l'heure des passages, des extraits de prédications très simples, très belles, qu'il a faites à des prisonniers de la prison de Bâle, si bien que c'était si beau que beaucoup de gens souhaitaient commettre un léger crime pour être enfermés dans la prison et profiter de ces prédications admirables de ce très grand théologien qui parlait simplement à des prisonniers. Il s'agit donc, en effet, pour Karl Barth, en tant que théologien, d'édifier dans l'expérience du ministère pastoral qu'il n'a jamais quitté. Il a toujours été un pasteur. Puis dans le ministère de la prédication aussi pour les hommes de notre temps, mais il s'agissait d'édifier une véritable dogmatique ecclésiale. En français, on appelait ça dogmatique, et ça a été entrepris en 1927, et c'était publié à partir de 1932, en 20 volumes, et c'est resté inachevé. C'est immense, immense. Cette dogmatique, qui est s'appuie exclusivement sur la parole de Dieu, car pour lui, tout était centré sur la parole de Dieu. C'est au service, donc, d'une révélation. Et quelle est cette révélation pour lui? C'est la transcendance absolue de Dieu. On oublie souvent la transcendance absolue de Dieu, et nous entrons dans nos églises sans nous rendre compte de cette présence spéciale qui existe dans nos églises. J'ai vu, de mes yeux vus, dimanche dernier à la messe, un jeune homme de 27 ans qui est entré dans l'église, qui s'est assis, qui restait assis tout le long de la messe. Mais au moment de la communion, il est allé communier, il s'est rassis. Il est même resté après la messe. C'est étrange. Peut-être ne pouvait-il pas se mettre à genoux. Mais aucune génuflexion, aucun rien, rien. Il n'y a pas cette transcendance absolue de Dieu qui nous habite. On dirait que nous ne savons pas que ce tout autre, comme on dit souvent avec un T majuscule et un A majuscule, est connu en Jésus-Christ comme un Dieu inconnu en même temps, comme dit Barth. Si bien que dans cette perspective absolument centrée sur le Christ, on peut puis il faut parler de l'humanité de Dieu. Il a extrêmement bien parlé de l'humanité de Dieu. Karl Barth, qui est donc né et mort à Bâle, est à coup sûr le plus grand théologien calviniste de notre temps. Il a été étudiant successivement à Berne, en Suisse, la capitale de la Suisse, capitale de langue allemande, Berlin, donc encore l'Allemagne, Tübingen et Marbourg. Il a subi d'abord l'influence de la théologie qui régnait à cette époque, c'était le libéralisme, une espèce de désagrégation de la foi, avec notamment, disons, une espèce de réduction de ce qu'on appelle la foi dogmatique, les dogmes, les vérités enseignées. C'était réduit tout ça à une conduite morale, et finalement, la religion devient beaucoup plus philanthropique qu'adoratrice. En 1911, à 25 ans, il devient pasteur d'un petit village suisse, Savenville. Pendant la guerre de 1914-1918, je vous rappelle, il est né 14 ans avant la fin du 19e siècle, ça lui donne donc 25 ans, quoi. 1914, 28 ans. Donc pendant la guerre 14-18, il se demande surtout ce qu'il doit prêcher à ses paroissiens, puis il découvre l'insuffisance d'une prédication purement humaine. Il doit leur transmettre la parole de Dieu, comme je viens de vous dire. La parole de Dieu. Et ses conférences passionnées ont été publiées dans un livre traduit en français sous le titre « Parole de Dieu et parole humaine ». Il est rendu brusquement célèbre par sa fameuse épître aux Romains en 1918. Et ce jeune pasteur du village suisse devient dès 1921 professeur de dogmatique en Allemagne à Göttingen, à Münster, puis à Bonn à partir de 1930. 44 ans, quoi. Sa grande œuvre théologique, c'est, comme je vous ai dit, sa dogmatique en de très nombreux volumes et qui va rester inachevée. Il prend sa retraite professorale en 1964, tout en comptant 8000 pages écrites. Il va mourir 4 ans plus tard. Barthes passe, à juste titre, donc, pour un défenseur vraiment acharné, convaincu, solide de la transcendance de Dieu. Cependant, commentant son œuvre passée, en 1956, 12 ans avant de mourir, il reconnaît que la divinité comme telle a aussi le caractère d'une humanité. Quand on contemple le Saint-Suaire de Turin, on voit bien l'homme, et on prend conscience davantage, il me semble, de l'humanité de Jésus quand on voit son corps avec nos yeux du début du 21e siècle à travers 2000 ans. En Jésus-Christ, tel que la Bible en témoigne, n'est pas question d'un Dieu abstrait, on le voit bien, c'est-à-dire séparé de l'homme par sa divinité, dans sa divinité-là, un Dieu qui serait éloigné et étranger, qui ne serait donc pas humain, mais en quelque sorte inhumain, comme il dit. Non, jamais en tout cas Karl Barth ne s'est tenu éloigné des problèmes si terribles de son temps, et dès 1934, il participe directement à la rédaction de la Confession de foi de Barmen, qui est à l'origine de l'Église confessante allemande. L'Église confessante allemande, c'est une Église qui confesse sa foi devant Hitler. D'ailleurs, en lisant la vie de Bonhoeffer, dont je vous ai déjà parlé, Bonhoeffer, ce grand pasteur protestant qui a risqué sa vie et qui a été tué finalement martyr du nazisme, au nom de sa foi, on voit, en lisant la vie de cet homme, on voit que l'appartenance à cette église confessante allemande va conduire à la mort par pendaison ce jeune et brillant théologien qu'est Bonhoeffer. Alors Barth, expulsé de son poste de Bonn, parce qu'il a refusé de prêter serment à Hitler, eh bien, il s'installe définitivement à Bâle, dans son pays d'origine, mais il ne cesse de soutenir ceux qui sont engagés dans la lutte contre le nazisme. Et on doit ajouter que ce grand théologien ne s'est jamais mis à part du ministère pastoral, toujours. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. C'est un ministre. j'allais dire presque un prêtre, d'un ministre protestant convaincu. Il était aumônier d'une prison en remplacement pendant 5 ans, de 54 à 59. Puis on a publié une traduction française des homélies que j'ai en main, qu'il a donnée dans ce ministère sous le titre de « Ô captif la liberté ». C'est paru il y a longtemps, il y a 41 ans, en 1959. C'est admirable, je les ai lus hier, et je vais vous en lire des extraits. Le portrait aussi qu'a donné de lui Walter Fürst dans « Bilan de la théologie au XXe siècle » en une dizaine de pages, paru chez Casterman en 1970, s'achève sur ces mots, et j'étais surpris quand je suis tombé sur ces mots à la fin, « On pourrait se demander si Barthes n'a pas dépassé le monde qui l'entoure, non d'une tête, mais de toute une longueur. » C'était une sorte de génie. Il n'est pas possible de donner ici une bibliographie, évidemment, des ouvrages, des articles écrits par Karl Barthes, ce n'est pas la place. Ni même d'indiquer les ouvrages qui ont été écrits sur lui. Je me contente de répéter, de signaler donc l'ouvrage merveilleux, considérable, que lui a consacré Hans Urs von Balthasar, intitulé « Karl Barth » et paru en 1951. Yves Congar, dont je vous parlerai demain, dominicain, très grand théologien, nommé cardinal, lui aussi il a été cardinal, écrit dans « Vraies et fausses réformes dans l'Église », ouvrage considérable et extrêmement important. Le ministère des âmes est une grande école de vérité, c'est pour ça que Balthasar tenait à s'occuper des âmes. Et Congar dit, je ne suis pas seul à avoir remarqué que les pasteurs protestants s'éloignent souvent de nous par le système de pensée, mais ils s'en rapprochent dans la pratique de la vie religieuse personnelle ou du ministère pastoral. D'autres encore, qui inclinaient au libéralisme, durant leurs années d'université, c'est-à-dire à rejeter le dogme pour ne s'occuper que de questions sociales, sont revenus à l'orthodoxie doctrinale. À mesure qu'ils ressentaient dans leur ministère, auprès des âmes, la nécessité de donner aux âmes, justement, une nourriture vraie. Jésus est vraiment Dieu incarné. Il surgit dans le temps et l'espace et apporte une révélation qui bouleverse l'humanité pour toujours. C'est moi qui ajoute ça à Congar. Congar dit, tout ce qu'il y a eu de grand et de fécond dans la réaction barthienne est venu de cette question que Karl Barth, jeune pasteur, se posait, que prêcher? Et comment prêcher le dimanche aux fidèles? On peut penser à ce que disait le cardinal Nicolas de Cuse, qui est envoyé légat dans l'Empire par Nicolas V, il y a bien des siècles, pour y promouvoir l'œuvre de réforme de l'Église catholique. Il disait, il n'appartient pas à l'homme de transformer la religion, c'est au contraire la religion qui doit transformer l'homme. Et c'est ce qu'on oublie souvent ici. Et puis un beau texte de Finlon dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps. Si vous voulez une sérieuse réforme, c'est ce qu'on veut ici au Québec, Si vous voulez une sérieuse réforme, ne la commencez point au dehors, comme les protestants, par une critique âcre et hautaine. Tournez-la contre vous-même. Plus vous vous réformerez ainsi, moins vous voudrez réformer l'Église catholique. Les âmes humbles et pacifiques, qui ne vivent que de recueillement et d'amour, sont toujours petites à leurs propres yeux et ennemies de la contradiction. Elles sont bien éloignées de toutes ces chicanes qui n'en finissent plus. S'agit quoi? De devenir des saints. Et le fait que durant quelques années, de 1954 à 59, Karl Barth a remplacé l'aumônier Martin Schwartz, et il a donc prêché au pénitencier de Bâle, comme ça, de temps à autre. C'est connu au loin, puis ça a provoqué l'étonnement, puis des hochements de tête. Les gens disaient, Karl Barth prêchait à des prisonniers, ils comprendront rien. Mais ça a procuré finalement beaucoup de joie et tellement d'approbation. Comme je vous disais, on a même fait la remarque malicieuse plusieurs fois qu'il faudrait peut-être se rendre coupable d'un petit délit quelque part, là, à Bâle. pour avoir l'occasion d'être emprisonné puis d'entendre prêcher Karl Barth, parce que des chrétiens puis des non-chrétiens se sont préoccupés de savoir, évidemment, si les auditeurs prisonniers de ces prédications avaient réussi à comprendre le message, et puis s'ils en avaient été contents, s'ils avaient apprécié à sa juste valeur la venue de cet homme immense parmi eux, si ces prisonniers aussi étaient aptes à comprendre son langage. Mais enfin, est-ce qu'il était à propos, là, dans un tel cadre, de prêcher l'Évangile au lieu de commencer par la loi, expliquer les lois civiques, là? Et si les auditeurs n'avaient pas de prime abord été dans des dispositions critiques à se dire « Oh, 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 qu'est-ce qu'on nous dit là? » et de critiquer de façon pas tellement chrétienne, parce que la plupart de ces prisonniers, semble-t-il, à Bâle, à ce moment-là, n'étaient pas vraiment des chrétiens. Mais ces prédications ont été prononcées devant des gens très critiques et non chrétiens, comme je vous dis, mais, chose étonnante, comme un miracle, ils les ont écoutés et suivis avec énormément d'attention. Et on peut dire que la sobriété, la simplicité, la clarté de ces messages, je vais vous en lire deux, l'absence de toute fausse note ou d'équivoque, le ton joyeux du témoignage aussi, qui était rendu à ce qui compte, les choses essentielles, ça leur a valu d'être écoutés par ces prisonniers, qui les ont saisis, qui ont approuvé, qui ont accepté. Eux qui étaient d'esprit assez critique, les esprits détachés de l'Église, ont senti à travers ces prédications que l'Évangile s'adressait à eux, et dans leur culpabilité, disons, puis dans leur situation douloureuse surtout, ils se sont vus compris, consolés, fortifiés, et leur réaction s'est manifestée de toutes sortes de manières, parfois peut-être peu explicite, là, en particulier par le recueillement, avec lequel ils se sont associés aux prières, parce que Karl Barth les fait prier, au début puis à la fin de ses prédications. Et leurs sentiments se sont traduits non seulement par la gratitude puis l'affection qu'ils ont témoigné à Karl Barth, mais aussi par l'esprit vraiment communautaire qu'ils ont apporté à ces cultes. Il y avait une cérémonie de type eucharistique. Alors, ils avaient donc une participation joyeuse, là, à ce qu'on appelle en langage protestant la Sainte Cène, c'est l'Eucharistie, célébrée à la suite de la plupart des prédications. Et le livre s'appelle « Au captif la liberté », de Karl Barth, aux éditions Labor et Fides de Genève, mais je vous dis, ça a été publié en 1959. Karl Barth dit au début, d'ailleurs, ces prédications ont été données au pénitencier de Bâle, dont l'aumônier, le pasteur Martin Schwarz, m'avait demandé un jour le remplacement, et depuis lors, j'ai eu à diverses reprises l'occasion bienvenue pour moi d'être accueilli au sein de la communauté de cet établissement. On sent la joie au cœur de cet homme si savant. Il dit, les prières prononcées lors de ces cultes ont eu à mes yeux au moins autant d'importance que les prédications elles-mêmes. Parce que c'est étrange, c'est rare qu'on voit un prédicateur prier comme ça, au début puis à la fin. Alors, sa prédication du mois d'août 1954 tourne autour de « Cependant, je reste toujours avec toi ». Il commence par cette prière. « Seigneur notre Dieu, nous te remercions, parce qu'en cette heure, nous pouvons être réunis pour t'invoquer, pour t'apporter tout ce qui nous émeut, pour entendre ensemble la bonne nouvelle du salut de l'humanité, pour te rendre gloire. Alors viens toi-même au milieu de nous. Réveille-nous. Donne-nous ta lumière. Sois notre maître et notre consolateur. Parle toi-même à chacun de nous, de manière que chacun entende exactement ce dont il a besoin et ce qui lui vient en aide. Que ta bonté soit aussi en tout lieu avec ceux qui se réunissent pour former ton Église. Garde-les, mais garde-nous dans ta parole. Préserve-les et préserve-nous de l'hypocrisie, de l'erreur, de l'ennui et de la distraction. Donne-leur et donne-nous la connaissance et l'espérance, un témoignage clair et des cœurs joyeux, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » Alors, le mot, la parole sur laquelle il veut prêcher, c'est « Cependant, je reste toujours avec toi, car tu m'as saisi par la main droite. » C'est le psaume 73. Verset 23. Mes chers frères et sœurs, dit-il, je veux essayer de vous expliquer brièvement ce que nous venons d'entendre, et vous verrez que chaque mot a son importance. Cela commence par cependant. Ce qui veut dire quand même, ou quoi qu'il en soit. Il y a dans ce mot comme un appel au combat, contre une puissance qui nous veut du mal, contre une force menaçante, troublante, accablante. Il peut s'agir d'une perte difficilement réparable, de circonstances, comme on dit, imputables à autrui et surtout à nous-mêmes. Cela peut venir de personnes avec lesquelles nous ne nous entendons pas et qui nous contrarient. Ça peut venir encore de notre caractère, de nous-mêmes, tel que nous sommes, chacun d'entre nous. Un cantique que peut-être il vous est arrivé de chanter dit que notre vie ressemble au voyage d'un pèlerin dans la nuit. Chacun sur son chemin trouve quelque chose de souci. Quelque cause de souci, pardon. Chacun, dit-il, chacun, tout le monde. Pas rien que toi, moi aussi. Pas seulement nous qui sommes ici réunis, mais aussi ceux de l'extérieur, les gens de la ville. Chaque homme, chaque femme, tous les hommes du monde entier. Et par-delà ce souci de chacun, il y a le grand souci, la grande peine d'un monde qui n'est pas en ordre, d'un monde bouleversé, ténébreux, dangereux. Bref, le souci de l'homme tel qu'il est, un pauvre, orgueilleux, paresseux, menteur, par conséquent mal en point, plongé dans la détresse. Ne serait-ce pas magnifique si face à tout cela on pouvait être en état de dire « cependant, cependant, je reste ». Cela reviendrait à dire « malgré tout, je vis, je veux nager à contre-courant, je ne veux pas céder, je ne veux pas désespérer, je ne veux pas sombrer, mais je veux tenir, bien plus, avoir pleine confiance et espérer, émerger et non être submergé, avoir cette liberté-là, dans les petites choses comme dans les grandes, au sein de sa propre peine et de la peine du monde et des hommes, il y aurait bien de quoi s'en réjouir. Cependant, je reste toujours, c'est-à-dire sans cesse, en tout cas dans n'importe quelle circonstance et garantie, pas seulement occasionnellement, pas seulement le matin, mais aussi le soir, quand vient l'obscurité, quand tombe la nuit. Pas rien que dans les bons moments, mais également dans les mauvais, pas uniquement quand on reçoit de bonnes nouvelles qui font plaisir, mais aussi quand viennent les autres. Donc, durablement, constamment, y compris dans la déception et dans l'abattement. Voilà ce que signifie ce mot « toujours ». Heureux qui peut le dire et non seulement le dire, mais le penser et être en état de s'appliquer à soi-même ces mots. Cependant, je reste toujours. Voilà comment prêchait Karl Barth à des prisonniers. C'est direct et c'est simple, hein? Aujourd'hui, les questions de Karl Barth. Karl Barth, que Jean XXIII considérait comme le plus grand théologien de ce siècle, même s'il était calviniste, ce qui montre bien l'esprit écuménique de Jean XXIII, n'est-ce pas? Je reviens donc à ce sermon, cette prédication de Karl Barth à des prisonniers à Bâle, en Suisse. En 1954, il leur dit, chers frères et sœurs, la Bible dans laquelle se trouve cette parole, « Cependant, je reste toujours avec toi, car tu m'as saisi par la main droite », est une seule et même invitation adressée à tous. Quand nous célébrons le culte, comme nous le faisons en ce moment, ça signifie que cette invitation s'adresse à nous tous, nous permettant de redire dans notre cœur, « Cependant, je reste toujours. » Oui, tous, pas rien que les prétendus bons, mais aussi les prétendus méchants. Pas rien que les heureux, mais aussi ceux qui se prennent pour très malheureux. Pas rien que les pieux, mais aussi ceux qui se disent peu ou pas pieux du tout. Tous sont invités. Oh, chers amis, pouvez-vous imaginer un homme plongé dans l'obscurité la plus noire et auquel il est donné subitement de voir la lumière? Un homme en train de mourir de faim et à qui tout à coup quelqu'un donne un morceau de pain? Un homme mourant de soif auquel, de but en blanc, on tend un verre d'eau? Telle est la situation de celui qui en a fini avec son cant à soi et qui peut dire « Cependant, je reste toujours avec toi. » Mais qui donc est-ce « toi » de avec toi?
Un homme?
Oui, certes, un homme. Nous avons devant nous quelqu'un qui a un visage d'homme, une forme d'homme, une main d'homme, un langage d'homme, quelqu'un qui porte sur son cœur sa peine, mais encore la peine du monde entier. Quelqu'un, vous avez deviné que c'est le Christ, hein? Quelqu'un qui se charge de notre péché et de notre détresse, et nous en décharge. Il le peut, parce qu'il n'est pas seulement un homme, mais aussi Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Et le Seigneur qui nous connaît, toi et moi, mieux que nous ne nous connaissons, et qui nous aime, toi et moi, bien plus que nous ne pouvons nous aimer. Il est notre prochain plus proche que nous ne le sommes nous-mêmes. Il est celui à qui nous osons dire « toi ». Or, qui est-il? La réponse nous est donnée dans le Cantique de Luther. Il s'appelle, dit Luther, Jésus-Christ, le Seigneur des armées. Il n'y a pas d'autre Dieu, c'est lui qui sera vainqueur. Et Karl Barth ajoute, et nous voici, frères et sœurs, tous invités à nous entretenir avec lui et non avec nous-mêmes. Liberté nous est accordée de dire, cependant je reste toujours avec toi. Et je termine par cette question, qui es-tu? Qui suis-je? Réponse, je suis quelqu'un que Dieu tient par sa main droite, quelqu'un dans le cœur et sur les lèvres de qui il met ce témoignage de fidélité et cette grande consolation, cependant je reste toujours avec toi. Oh, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera d'éternité en éternité. Amen. Et sa prière finale est celle-ci, « Seigneur notre Dieu, nous pensons devant toi à tous ceux qui vivent dans cette maison, cette prison, ainsi qu'à tous les autres prisonniers. Sois avec les nôtres à la maison, avec les pauvres, les malades, les opprimés, les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de tous ceux qui, dans notre pays et dans tous les pays, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Permets que le jour se lève par Jésus-Christ notre Seigneur, au nom duquel nous te prions, notre Père qui es aux cieux. Amen. » Dans une autre prédication, 5 ans plus tard, au mois de juin 1959, sur le psaume 68, verset 20, Karl Barth commence à prier devant les prisonniers en disant, à la prison de Bâle, en Suisse, « Seigneur Dieu, tu nous vois assemblés pour annoncer ta parole et pour l'écouter, pour t'invoquer, pour te louer, pour te demander la seule chose bonne et salutaire pour nous et pour le monde entier. Mais comment le ferions-nous? Tu sais bien quelle sorte de gens nous sommes tous, nous le savons aussi, et nous ne pouvons renier devant toi nos cœurs durs, nos pensées impures, nos désirs désordonnés et tout ce qui en résulte, nos erreurs et nos transgressions, tant de paroles et d'actions qui te déplaisent, et par lesquelles nous ne faisons que troubler la paix d'ici-bas. Qui sommes-nous donc pour être en état de t'offrir un culte convenable, et pour être vraiment secourables les uns aux autres? Oh, il faut que tu viennes toi-même parler et agir au milieu de nous. Nous nous en tenons uniquement à la promesse de ta grâce et de ta miséricorde, nous assurant que Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres que nous sommes, pour annoncer aux captifs la délivrance et la vue aux aveugles, le salut aux pécheurs que nous sommes. En cette heure, nous comptons sur cette promesse. Tu peux ce que nous ne pouvons pas. Nous croyons et nous avons confiance que tu le feras, non à cause de nos mérites, mais parce que c'est toi. Loué soit le Seigneur de jour en jour. Il nous porte le Dieu en qui est notre secours. mes chers frères et sœurs. Puis-je vous inviter, vous exhorter à joindre vos voix à la mienne, non plutôt à celle de l'Écriture sainte. À celle de l'Écriture sainte. Pour dire avec elle, loué soit Dieu jour après jour. Habituellement, nos pensées et nos sentiments prennent une autre direction, nous ne louons guère le Seigneur. Mais tous, y compris moi, nous récriminons plutôt. Et c'est ainsi que, par exemple, je me plaindrai de mon sort. Qui me veut du mal, qui m'a dupé, qui n'a rien su faire de mieux que de m'amener là où je suis. Ou bien j'accuserai les hommes parmi lesquels j'ai vécu, dont les gestes et faits m'ont joué de vilains tours. Le milieu dans lequel j'ai grandi à mon détriment, voire mes parents, qui ne se sont pas préoccupés de moi, ne m'ont pour ainsi dire pas élevé, m'ont témoigné si peu d'affection. Ou encore, tel ou tel individu auquel j'ai eu affaire journellement, qui m'a nui par son attitude choquante, contrariante, méprisante, par ses mauvaises manières, par son inconduite. Il peut m'arriver aussi de me vituperer moi-même. J'aurais envie de m'arracher les cheveux, de me gifler, en évoquant telle époque ou telle heure obscure de ma vie, à partir de laquelle j'ai dégringolé la pente et dont je supporte encore les conséquences. Nos récriminations iront peut-être même plus loin. Vous savez, il parle à des prisonniers. Il se pourrait que l'un ou l'autre eût envie de protester contre le christianisme, contre les églises, protestantes et catholiques, contre leurs représentants qui, si souvent, ont hurlé et hurlent encore avec les loups, qui en tout cas paraissent si anémiés qu'ils n'ont rien de mieux à offrir que des pierres en guise de pain. Il n'y va pas de main morte, ce plus grand théologien du XXe siècle, Karl Barth, au dire de Jean 23. Et il ajoute, faut-il aller plus loin dans cette direction? On trouverait à coup sûr encore maint grief concernant chacun en particulier. Il se pourrait que nous trouvions du soulagement et de la satisfaction à donner libre cours à nos récriminations contre tout un chacun. Peut-être même, pourquoi pas, serait-on obligé de nous donner raison en partie et sur toute la ligne. Alors quoi? Y aller gaiement et récriminer? Devrais-je m'arrêter ici et dire « Amen » L'un ou l'autre d'entre vous serait peut-être tout content que j'en reste là. Il pourrait ensuite se vanter de s'être senti compris enfin une bonne fois. Halte là! Ça ne se passe pas comme ça. Il s'agit pas maintenant de nous comprendre nous-mêmes et mutuellement. Il s'agit que tous nous apprenions à comprendre quelque chose de tout autre. C'est pourquoi il est trop tôt pour dire Amen. Alors continuons. Voici cette autre chose. Loué soit le Seigneur de jour en jour. Oui, loué soit le Seigneur de jour en jour. Vous le sentez sûrement. La résonance est déjà tout autre. Oui, c'est en effet tout autre chose que nos récriminations formulées en sourdine ou à haute voix, fondées ou infondées. Face à nos pensées, et à nos sentiments, c'est autre chose. Oui, cette autre chose fait l'effet d'une montagne de 4000 mètres. Comme un tremblement de terre, elle ébranle tout le domaine de nos grognements. Loué soit le Seigneur de jour en jour. Comme un torrent impétueux, elle force les barrages de nos plaintes, de nos griefs, de nos critiques et de nos protestations. Loué soit le Seigneur de jour en jour. N'allez pas vous imaginer que c'est là mon point de vue personnel, car s'il s'agissait de mon opinion, je pourrais vous avouer ouvertement qu'il m'arrive souvent de grogner, que je le fais même très volontiers, persuadé chaque fois d'avoir pour cela de bonnes raisons. Or, nous parlons ici de quelque chose de bien plus élevé et de meilleur que nos vues personnelles. Béni soit l'Éternel jour après jour. Telle est dans sa sobriété. La vérité qui est au-dessus de nous, contre nous, et surtout pour nous. La vérité qui veut se lever dans nos cœurs, comme le soleil se lève tôt en cette saison. Quand il se lève, les oiseaux se mettent à gazouiller, parle au mois de juin, et les fleurs se tournent vers lui. Aucun homme ne vit de ses propres opinions, fussent-elles excellentes et bien fondées. L'homme vit de la vérité. Et Karl Barth ajoute, la voici. Loué soit le Seigneur de jour en jour. Si nous faisons chorus à ces mots, nous entrons dans la vérité. ou mieux, nous sommes déjà dans la vérité. Le jour se lève, la vie réelle commence, alors seulement. Voilà pourquoi tout à l'heure, je ne pouvais pas déjà dire Amen et que maintenant, malgré tout, je vous invite, je vous exhorte, je vous en prie, joignez vos voix à celles qui chantent, loué soit le Seigneur de jour en jour. Je voudrais bien maintenant qu'aucun de vous ne dise ensuite, il a prêché aujourd'hui qu'au lieu de bougonner, il faut louer Dieu. Alors quoi? Il faut? Non, je n'ai pas dit cela. Ce dont j'ai parlé dans ma prédication n'est pas une loi, une corvée, une contrainte dont vous auriez à vous charger, une sorte de crispation que vous devriez vous imposer. Mais louer le Seigneur de jour en jour n'a rien d'une obligation, d'une ascension essoufflante vers je ne sais quel idéal. Bien au contraire, c'est bien plutôt descendre de la montagne d'un pas joyeux et alerte. Celui qui fait cela, c'est qu'il lui a été donné de le faire. Il ne le fait pas en vertu de quelque liberté qu'il aurait prise ou acquise, mais d'une liberté qui lui vient de la source de toute liberté, de celui, Dieu, qui seul est libre et grand. Il nous porte, le Dieu en qui est notre secours. La version de Luther, de ce texte, est quelque peu différente. Luther dit, Dieu nous charge d'un fardeau, mais il nous aide à le porter. Bon, cela est vrai aussi, des milliers d'êtres humains ont sans doute trouvé leur consolation dans ces mots. Dans le cas particulier, j'ai préféré, moi, me servir de la version de Zurich, qui me semble rendre plus exactement ce que l'on a voulu dire. Elle me paraît aussi plus juste que la manière dont Martin Luther a compris cette parole. Car, en réalité, Dieu ne nous charge pas d'un fardeau, voyons. C'est nous qui sommes un fardeau dont lui s'est chargé et qu'il porte lui-même. Dire qu'il nous porte, cela signifie encore sans doute qu'il nous supporte. Dieu pourrait fort bien nous tenir pour des gens insupportables, peut-être même à cause de nos murmures qui vraiment ne nous font pas faire bonne figure, non. Il pourrait nous traiter en conséquence et nous laisser tomber, quoi. Or, c'est justement ce qu'il ne fait pas. Il est un grand Seigneur qui peut et veut nous supporter. Même moi et toi, et qui en effet nous supporte. Il est certain tout d'abord que Dieu le Seigneur nous porte dans toutes les circonstances importantes ou accessoires, contre quoi nous récriminons à tort ou à raison. Il est également certain qu'il nous porte avec nos murmures, lesquels, il faut bien le reconnaître, ne sont jamais une attitude sympathique. Ce que nous disons dans la confession de foi, « Je crois à la rémission des péchés », peut certainement être aussi compris dans ce sens, « Je crois au pardon de ma manie de murmurer, de vitupérer et de protester journellement. » Quand Karl Barth parle de Dieu, au moment de l'Avent, c'est superbe, je vous cite un passage que l'on pourrait intituler « Dieu, notre joie ». Évidemment, dit Karl Barth, quand nous pensons à l'œuvre de Dieu, nous ne pensons pas à quelque obscure force dernière dont nous apercevrions les traces, ni au destin, comme il semble, les musulmans insistent beaucoup là-dessus, au destin qu'enfermerait le monde dans son anneau d'airain, ni à l'une de ces idées dans lesquelles nous résumons ce qui a part pour la suprême valeur, là, le bien, l'idéal, le beau, le vrai. Si nous parlions de ces dieux-là, nous ne pourrions pas dire « Mon esprit se réjouit en eux ». Et là, c'est très important. Il dit « Nous ne pouvons nous réjouir quand celui qui est venu nous secourir et qui déjà, rien que par sa présence, nous dit que nous sommes des nécessités, que nous avons besoin d'aide. Peu importe le texte, il est celui qui nous secourt, celui qui nous agrée, qui nous reçoit, qui nous accepte. Celui qui nous apporte le salut, la libération, dans la perdition où nous sommes, tel est le Dieu sauveur, libérateur. Et l'on peut, et l'on doit se réjouir de ce Dieu-là. On peut penser à d'autres dieux, s'incliner sous le destin avec une résignation mélancolique, avec une consolation qu'on a fabriquée soi-même. On peut poursuivre ses idées même avec fanatisme souvent. Mais au bout de cela, quelle joie y a-t-il? La joie, c'est la chose la plus rare dans le monde, la plus extraordinaire. Nous trouvons dans le monde assez d'austérité, d'enthousiasme fanatique et de zèle sans humour. Mais de la joie, c'est que la connaissance du Dieu vivant est rare. Karl Barth. Durant un sermon prononcé durant l'Avent. La pensée de Karl Barth se résume en peu de choses si on veut, dans une émission de radio très simple. Dieu est au ciel et toi sur la terre, écrit-il, très jeune, dans son étude sur l'Épître aux Romains. Dieu est au ciel et toi sur la terre. La relation de ce Dieu à cet homme, la relation de cet homme à ce Dieu, c'est pour moi tout à la fois le thème de la Bible et la somme de la philosophie. Les philosophes appellent origine cette crisis de la connaissance humaine. À cette croisée des chemins, la Bible aperçoit Jésus-Christ. En somme, ces phrases que Barth a écrites quand il était bien jeune, il y a plus de 75 ans, montrent qu'il n'a jamais été légitime, là, de caractériser ce qu'il y a de spécifique dans sa théologie par l'expression « Dieu est tout, l'homme n'est rien ». Non, non, c'est une caricature, ça. On n'en peut même pas tirer le mépris de la philosophie qu'on lui a souvent reproché. Non, non. Il a réfuté de la façon la plus nette dans son « Histoire de la théologie protestante » paru en 1947. Il dit « On ne trouve d'ailleurs nulle part, dans la plupart, dans les premières œuvres de Barth, une séparation entre Dieu et l'homme qui permettrait ou exigerait de parler de l'un ou de l'autre de façon isolée et abstraite. Pour lui, l'homme n'existe pas sans Dieu, et Dieu aime tellement l'homme qu'il est préoccupé par l'homme. Il l'aime. Le thème auquel Barth s'est tenu depuis le début en le précisant sans cesse à nouveau et en le développant de façon de plus en plus riche, c'est la relation de Dieu à l'homme, d'en haut, là, et la relation de l'homme à Dieu, d'en bas. Deux aspects sont ainsi devenus de plus en plus clairs. Premièrement, on ne peut parler de Dieu comme de l'homme que sur la base de cette relation. Et aujourd'hui, on veut faire de l'homme quelqu'un qui n'a aucune relation avec Dieu. C'est terrible. Aux yeux de Karl Barth, c'est une absurdité épouvantable. Il ne peut s'agir ici que d'une relation unique et non de deux relations d'ailleurs. Car pour comprendre ce qu'est ce Dieu et cet homme, il faut le déchiffrer en l'unique Jésus-Christ, dit-il. C'est en sa personne, en Jésus-Christ, puis dans son histoire, que s'accomplit aussi bien la relation de Dieu à l'homme que celle de l'homme à Dieu. Ou plutôt, il est lui-même cette relation en une personne. En d'autres termes, on peut terminer cette émission en disant que Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, est l'histoire de Dieu avec l'homme, où Dieu s'est défini de telle sorte qu'il n'est Dieu que comme Dieu de l'homme, et que l'homme n'est homme que comme homme de Dieu. Si nos journalistes comme Jean Dion comprenaient ça, et si nos Stéphane Baillargeon et tous les autres comprenaient ça, que l'homme n'est homme que comme homme de Dieu. Par conséquent, s'il est vrai qu'on ne peut parler de l'homme qu'en parlant de Dieu, il est également vrai qu'on ne peut parler de Dieu qu'en parlant aussi de l'homme. Quand Dieu se révèle, cela signifie que Dieu intervient lui-même comme connu et connaissant, dit-il, su et sachant, parlant et écoutant. Il a des façons de s'exprimer fantastiques, ce Karl Barth. C'est admirable. Lire Barth, c'est s'arrêter constamment à des paroles qui nous soutiennent et qui nous rendent plus fidèles au Christ, plus humains finalement, et plus décidés de confesser Jésus-Christ comme le Sauveur des incrédules, des pécheurs que nous sommes. pour que Dieu fasse surabonder sa grâce dans son évangile, dans l'Eucharistie, et que cet événement insoupçonné de l'homme religieux souvent devienne évident, et que tous les hommes et les femmes religieux, religieuses, c'est-à-dire qui pratiquent la foi chrétienne et particulièrement la foi catholique, reconnaissent Jésus-Christ pour qui il est.